Nous sommes le jeudi 9 octobre. Il est 21h et des poussières sur Radio Canus 102.2. Bienvenue dans le nerf de la game. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine ou presque, vous retrouvez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Bonjour Romain.
Salut Xavier.
Romain qui tente tant bien que mal de surmonter le traumatisme qui lui a causé la fin très glauque du pourtant très bon jeu d'aventure Excavation of Hobbs Barrow qu'il a streamé ce dimanche sur sa chaîne Twitch Riven. Ça va ?
Ça va toujours. j'ai aucune séquelle.
D'accord. D'accord. Non mais c'est
attention,
très bien.
Attention, on a un truc violet. J'ai aucune séquelle.
Ok, très bien. Puis de toute façon, on va finir l'émission sur un j'arrête quand je veux. Hein. Tu sais très bien. Donc. Écoute, depuis la dernière fois qu'elle est venue dans ce studio, la France a eu le temps de changer 3 fois de gouvernement et de verser un 500 000 d'euros d'indemnité à des ministres démissionnaires. Bonsoir Bettina.
Salut.
Salut Bettina.
Ça fait que 3 semaines pourtant.
Waouh, c'était intense.
Il s'en est passé des choses. Écoute, on espère que tu as bien profité du Game Créalab et du Meetup la semaine dernière. Et en tout cas, on est ravis de te retrouver ce soir.
Oui, merci. J'étais même pas au Meetup parce que j'étais malade comme un chien. Voilà. Mais j'ai survécu.
Ah,
bien.
Bon, mais ça veut dire que. Mais au Game Créalab, comme tu nous racontais un peu avant, ça s'est très bien passé. T'as vu des choses intéressantes, c'était cool.
Ouais, c'était très très cool. Des projets intéressants, fort intéressants. Donc j'espère qu'ils vont être menés à bien et que je vais surveiller ça de loin. On verra si j'ai des news plus tard.
Franchement, affaire à suivre. Hein. Et puis, si c'est des choses dont on pourra parler ici dans le nerf de la game, ce sera avec grand plaisir.
Exactement.
Comme chaque semaine, on remercie le collectif Presse F5 qui héberge notre podcast Le Nerf de la Game et Radio Canu pour l'accès au studio. Et avant de parler du sommaire de cette semaine, je voudrais vous parler d'un événement. Un événement qui aura lieu le 22 octobre, qui est Sex Nerd et Rock'n'Roll.
C'est vrai, dis donc. Ça arrive vite.
Et oui, Sex Nerd et Rock'n'Roll, qui est donc le
magnifique nom.
Le magnifique
que tu
nom.
As trouvé.
Le magnifique nom qu'on a trouvé de remplaçant, qui est donc les soirées. parce que j'ai trouvé et t'as validé. Et
parce que j'ai pas eu le choix. Mais dis, raconte ce que c'est.
Oui, donc c'est les soirées donc quiz et blind test que on fait au Troquet Taquin, donc près de la place Satonnet, bar restaurant près de la place Satonnet, et on fait ça tous les mois. Ce sera donc le 22 octobre à partir de 20h30. Vous venez, il y aura de la musique, il y aura des questions, il y aura la bonne humeur et de la mauvaise foi à
exactement.
Revendre.
Et c'est ça. Et là, s'ils vont vraiment expérimenter la démocratie, ce sera pas là-bas qu'il faut aller.
Ah non,
non, c'est pas le projet.
c'est ni notre projet, ni encore moins celui de la patronne.
Exactement.
Donc voilà. Cette semaine, au sommaire, on va parler des changements de prix du Xbox Game Pass, de un peu de nos obsessions vidéoludiques du moment. Mais d'abord, on va faire le tour des news récentes des gens qui fabriquent des jeux vidéo sur Lyon et ses alentours. Bettina, je te laisse la main.
Oui, alors, j'ai envie de vous parler de l'un de mes petits chouchous. Randomize va bientôt sortir. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite. Je ne sais pas exactement depuis combien de temps son développeur Vidéoludide, de son vrai nom Aurélien Desfossés, travaille dessus, mais il l'avait déjà présenté en février 2024 à Indie Game Lyon 5, et il était déjà très avancé à ce moment-là, donc ça doit faire un moment qu'il bosse dessus. Il était revenu en mai 2025 pour Indie Game Lyon 6, et j'avais constaté qu'il y avait eu pas mal d'évolutions. Vidéoludite, c'est donc un développeur solo, mais depuis, je sais pas, peut-être un an, un peu plus d'un an, je sais pas exactement, il est accompagné par le publisher Abiding Bridge, et c'est sans doute ça qui lui a permis de faire monter de quelques crans la prod de son jeu. Il prévoit donc la sortie 1.0 pour novembre, Une des choses qui m'avait touchée dans ce jeu, c'est que la toute première vidéo qu'il nous avait envoyée, il avait fait certains sound design à la bouche et j'avais adoré, j'avais trouvé que ça collait complètement à sa direction artistique et je lui avais dit qu'il fallait jouer cette carte à fond. Et dans les vidéos qui ont suivi, j'ai pu voir que c'était totalement ce qu'il avait fait. En fait, il y a même des musiques qui sont faites à la bouche et ça fonctionne hyper bien. Vraiment, j'adore. Donc, je dis pas que c'est grâce à moi qu'il l'a fait, il avait probablement prévu de faire ça.
C'est pas ce que tu nous as dit hors antenne, mais vas-y.
Il avait besoin de cette confirmation pour prendre la décision jusqu'au bout. Tu vois.
Non, mais voilà, je me dis que je l'ai encouragé à aller dans cette direction et que comme ça, j'ai ajouté ma petite pierre, mon petit caillou à l'édifice. Voilà.
Oui, effectivement, pour rappeler ce qu'est Randomize.
J'allais venir, ouais.
Ah, pardon.
Tu me coupes l'herbe sous le pied.
Je pensais que t'avais.
C'est pour ça qu'il est là dans l'émission en général. Toi, t'es lancé dans un truc et lui vient te couper pour te raconter la même chose que
ah
ce
oui,
que t'allais dire. C'est son concept.
Xavier Splain, moi.
Exactement. C'est ton rôle. C'est ton rôle. C'est pour ça que t'es là.
Donc, j'y viens. Je vous explique un petit peu le jeu. L'esthétique est toute mignonne. On dirait en fait des illustrations à l'aquarelle ou au feutre à alcool et on a l'impression de jouer un livre illustré. Donc, je trouve que c'est très réussi. Et donc, Randomize, c'est un Metroidvania drôle et sans combat où on incarne une souris dans une maison et le but, c'est d'en sortir. On doit planifier et frayer son chemin à travers les pièces de la maison avec les objets qu'on aura acquis. Et le twist, c'est qu'à chaque run, on trouvera les mêmes objets mais dans des ordres différents. Donc il faudra s'adapter aux objets qu'on a découverts pour déterminer où aller. Donc il faut garder en tête les lieux où on peut aller en fonction de nos trouvailles, maîtriser le platforming et tracer le meilleur chemin pour augmenter nos chances de sortir rapidement. Et donc Randomize s'adapte aussi bien aux férus de l'optimisation et de la vitesse, mais aussi aux personnes qui souhaitent tranquillement explorer la maison et rencontrer des personnages rigolos tout en profitant des challenges du jeu. Il y a une démo gratuite qui est dispo sur Steam si vous voulez l'essayer et ajoutez-le dans votre wishlist pour être notifié quand il sortira. Ça devrait arriver bientôt.
Et ça soutient les développeurs en général, les studios, de mettre les jeux en wishlist. Ça leur donne du poids quand ils vont discuter avec des éditeurs notamment.
Ouais.
Et puis quand je sais pas si tu avais joué sur le salon.
Pas sur le salon. J'ai fait la démo sur Steam, okay. Mais pas joué sur le salon non.
Et alors je sais que moi un truc qui m'avait plu c'est qu'il y avait aussi un côté un peu point and click en fait. Parce que il y a un côté comme il y a un côté random. En fait, c'est tu vas te dire tiens dans quel ordre et dans quelle association je vais faire pour à un moment il y a un personnage qui veut tel objet. Dans ma première partie, bon, je l'avais directement donc je lui ai filé et dans ta deuxième partie, bah tu l'as carrément pas et t'as pas du tout de quoi faire. En fait, du coup, je trouve qu'il y a un petit côté aussi un peu jeu d'aventure
Tu dois chercher dans les tableaux pour trouver le bon objet.
C'est ça. C'est ça. Ouais.
Et donc deuxième petite news, c'est aussi un instant un peu auto-promo. C'est la soirée de playtest organisée à l'Aquarium Ciné Café ce samedi 11 octobre. Donc c'est au 10 rue du Mont pour les Lyonnaises et Lyonnais. Donc elles sont co-organisées par Loïc du studio Ultimo Disco et pour cette session et les prochaines à venir, je les rejoins en fait pour lui filer un coup de main. C'est donc un partenariat dorénavant avec QuickTime Events, notre association organisatrice de Indie Gamelion. Ces soirées de playtest, en fait, c'est une occasion parfaite pour les créateurs et créatrices, ainsi que les studios de jeux vidéo, de faire jouer leurs prototypes à du public et de récolter de précieux retours pour améliorer leur jeu ou simplement vérifier que tout fonctionne et est bien compris par les joueurs et les joueuses. Loïc a une volonté de faire, dans la mesure du possible, une sorte de coaching et d'apporter son aide sur la mise en place de playtest pour des devs qui en ont peut-être encore jamais fait. Et ces soirées, pour moi, elles sont complémentaires à Indie Gamelion. Je m'explique, là où pour Indie Gamelion, même si on aime aussi prendre des prototypes, on a un seuil d'exigence entre guillemets un peu plus élevé, puisqu'il faut que le grand public puisse voir tout de suite le potentiel du jeu. Tandis que là, pour ces soirées, on va au contraire prendre des jeux qui sont très tôt dans leur développement et qui peuvent avoir des problèmes ou des choses à corriger, à améliorer, à modifier. Donc typiquement, parmi les propositions qu'on a reçues, il y en a trois qu'on n'avait pas prises à Indie Gamelion, mais que j'étais ravie de pouvoir prendre pour cette soirée. Et je vais vous présenter un petit peu tous les jeux qu'il va y avoir. Donc, donc on en a sélectionné 7. Au départ, on s'était dit 6 maximum, mais finalement, il y en a un, c'est un jeu mobile, donc a priori, si on le met dans les canapés, peut-être ça passe. Enfin voilà, on sait
pas. C'est une question de place aussi.
Ouais. Ouais, en fait, l'aquarium ciné-café est pas très grand et je sais pas, on peut peut-être faire rentrer 60 personnes, je dirais, mais voilà, c'est pas. Donc, 7 jeux, c'est beaucoup quand même. Donc oui, comme je vous disais, donc les trois en question que je connaissais déjà et qu'on n'avait pas pu prendre à Indiegame Lyon, il y a Georges. Donc Georges, c'est bien le nom du jeu, qui à ce moment-là était encore trop tôt dans son développement parce qu'il en était carrément à des étapes de blocking. Et du coup, nous, on a jugé que c'était pas pertinent pour Indiegame Lyon parce que là, vraiment, le public aurait eu du mal à voir le potentiel. Micromega, qui est un jeu de puzzle, et malheureusement pour lui, bah, on avait reçu d'autres propositions de puzzle cette année-là, et c'est celui-là qu'on n'a pas retenu. Et on lui avait trouvé un peu un manque de clarté dans son game design, donc je suis curieuse de voir si c'est quelque chose qui va sortir de ses playtests ou pas, et peut-être que le jeu a juste changé depuis, parce que ça c'était l'année dernière. Gutter God Killer, qui est un shooter frénétique, qui a changé de nom d'ailleurs, il ne s'appelait pas comme ça quand il nous l'avait présenté. On lui avait trouvé des défauts de jouabilité, notamment au niveau de la caméra. Je lui en avais fait part et je ne sais pas si ça a changé depuis, mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup avec ce jeu, en fait, c'est pas tant le jeu en lui-même, c'est plutôt le profil du développeur. Parce qu'en fait, Victor a seulement 17 ans et il développe son premier jeu tout seul.
C'est Gutter God Killer, c'est ça ?
Gutter God Killer.
Ah, God Killer. J'ai compris, God Killer.
Oui, oui, j'ai dit.
C'est maltraitant sur animal, mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Ah, moi j'étais en mode vraiment black metal à fond, quoi.
Oui, on est à la temple ou à l'altar. Enfin, c'est comme tu veux.
C'est quand même un peu l'ambiance parce que pour le coup, c'est des histoires de rats dans des égouts et tout est extrêmement violent et sanglant. Voilà.
D'accord. Il a 17 ans, quoi.
c'est un jeu interdit au moins de 18 ans développé par quelqu'un de 17 ans. C'est sympa. J'aime bien l'idée.
Mais du coup, ouais, son profil me rappelle Nicolas Messonnier que je connais bien, qui avait commencé à développer Pumpin' Jack à peu près au même âge, il me semble. Et d'ailleurs, Pumpin' Jack qu'il avait présenté à la toute première édition de Indiegame Lyon. Et un petit mot sur les autres jeux. Donc, on a Icy Pursuit, qui est un jeu de plateforme 3D pour Android. Snakeoban, qui mélange Snake et puzzle. Kaz, le nouveau jeu de Kalinarm dont j'ai déjà pu parler ici, et Shepherd, le jeu sur lequel travaille Loïc, qui est un party game tout choupi où on joue des chiens de berger.
Ah oui, Shepherd. Il y avait une démo qui était sur Steam.
Tout à fait.
J'y avais joué avec l'héritier, effectivement.
D'accord.
Eh ben, tu me fais une transition parfaite, c'est exactement ma conclusion. Kaz et Shepherd ont des démos gratuites sur Steam si vous voulez tester. Et Icy Pursuit, Snakeobad et Gutter God Killer sont dispo sur Itch si vous voulez les tester également.
Question pratique, c'est à quelle heure ? Ça commence à quelle heure ?
J'ai pas parlé des horaires, je crois c'est à partir de 19h30. Oui, c'est ça.
C'est gratuit, d'accord. C'est payant.
Et c'est gratuit, payant.
En fait, comme l'Aquarium Ciné Café est un bar associatif, il faut adhérer au bar, à l'Aquarium en fait, pour pouvoir accéder aux soirées, mais c'est une adhésion annuelle, donc vous payez une fois et vous pouvez revenir ensuite. Pendant toute l'année. D'accord. J'ai plus le prix par contre.
Et parce qu'en fait, tu disais, il y a environ une soixantaine de personnes qui peuvent rentrer. Il y a besoin de réserver ou
c'est... Non, il n'y a pas de système de réservation du tout. Donc voilà, s'il n'y a plus de place, je sais pas. Attendez votre tour.
Oui, parce que j'ai déjà fait des soirées à l'Aquarium Ciné, mais des soirées plutôt...
C'est plutôt cinéma.
Cinéma ou les soirées de Mr. Fox, notamment. Ouais. Et clairement, par contre, ces soirées-là, il faut les réserver. En tout cas, celles de Mr. Fox, parce qu'elles sont souvent complètes.
Ouais. Bah, là, en tout cas, c'est la deuxième saison que Loïc organise ses soirées de playtest. Je crois qu'il en a fait 3 l'année dernière. Je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, il n'en a pas fait beaucoup. Là, l'idée, c'est vraiment d'en faire une par trimestre, je crois. Donc la prochaine sera en janvier d'ailleurs. Et l'année dernière, la question de mettre en place des réservations s'était pas posée. Cette année, justement, ça fait partie des interrogations qu'on a, vu que je les rejoins sur l'orga et que je fais aussi de la com sur les réseaux de l'association, tout ça. Je ne sais pas à quel point ça va ramener des gens ou pas. Peut-être qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de monde et on sera pris au dépourvu, mais en tout cas voilà, on apprendra de nos erreurs et on arrangera ça
sortir le canon à eau pour libérer la place. Enfin, ça va être
non mais c'est bien, on va faire
ludique.
On va faire du crowd control.
Exactement.
Ça va être bien.
Bon, en tout cas voilà, pour l'instant il n'y a jamais eu besoin de refuser des gens, Donc, okay. Donc venez, et puis au pire... bah,
vous serez les premiers à être refusés. Pardon. À jamais les premiers. Donc, en tout cas, c'est cool comme organisation.
T'as changé.
Comme concept, c'est vachement sympa.
Ouais. Bah, j'aime beaucoup l'envie de Loïc d'essayer d'aider les autres développeurs à mettre en place des playtests. C'est très très cool.
Et puis je vois aussi bien le côté complémentaire par rapport à Indie Game Lyon, où là on montre des produits pas loin d'être finis, on va dire, ou en tout cas
pas loin d'être prêt à être présenté,
prêt à être présenté à un public à un public plus large.
Ouais.
Alors que là, les playtests, de manière générale, souvent en fait, même si c'est pas des gens qui sont spécialistes dans un type de jeu vidéo, souvent c'est des gens qui sont plus ou moins du milieu ou qui ont l'habitude de jouer à des jeux vidéo et qui ont l'habitude surtout de phases plus early, de phases plus tôt, où les jeux en fait sont pas ont pas le polish que on connaît même dans les démos, c'est-à-dire que des démos Steam en général t'as pas des trucs avec des placeholders, avec des textures qui manquent ou des trucs comme ça, parce que souvent déjà on va dire oula, ta démo elle est pourrie parce qu'il manque des choses.
Surtout que là on va arriver dans la période du Steam Next Fest la semaine prochaine. Le Steam Next Fest, tu ne peux participer qu'une fois. Donc tu dois choisir le bon moment, en fait, le moment où ton jeu est prêt à être présenté dans ce cadre-là, avec la visibilité que ça peut apporter, parce que c'est un one shot en termes de d'événements. Même si il n'est jamais trop tôt pour présenter son jeu au public, c'est l'intérêt, je pense, de ces playtests également. Mais c'est vrai que la démo en elle-même, ça reste un élément extrêmement important pour le futur du truc. Donc il faut qu'elle soit dans les bonnes conditions.
C'est ça. Ça reste des démos, mais les démarches ne sont pas les mêmes. Là, on est vraiment sur plus des démos où on teste pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Tandis qu'une démo sur Steam, on est davantage sur objectif de convaincre.
C'est ça. On a déjà fini le projet, on a déjà fini le concept. On est en train de finir le contenu. Mais on ne reviendra pas sur le cœur du truc.
Non.
Donc, aux phases des playtests, on peut encore être au moment où on ajuste.
C'est ça.
Donc c'est deux moments différents dans le développement.
Après, tu vois, le jeu comme Shepherd, où ils ont fait la démo, mais je pense que c'est pas le cœur du jeu qui changera, mais il y a du fine-tuning à faire, de l'ajustement par rapport au contrôle, par rapport par rapport à tes missions, par rapport à la présentation, par rapport à l'interface, ce genre de choses. Mais de toute façon, le principe de jeu étant relativement clair, il changera pas du tout au tout, quoi.
Tiens, d'ailleurs, je balance une bouteille à la mer. Je voulais absolument jouer à Shepherd avec une copine ce week-end, et elle était malade, elle aussi, décidément, tout le monde était malade. Du coup, j'ai pas joué. Donc voilà, si vous voulez, on peut jouer à Shepherd.
Bah, carrément.
J'ai très envie de jouer un chien qui court après
les
boutons.
C'est trop mimi.
Oui.
Mais par contre, pour le coup, j'y ai joué à deux, et je pense que c'est mieux à plus.
Ouais.
Ça peut se jouer à combien ?
4, tout cas.
Ok.
La démo c'était 4, je sais pas ce qu'il en est, mais la démo c'était 4, et à 2 je voyais déjà qu'on galérait pour quand il y en avait beaucoup et qui bougeaient dans tous les sens, c'était un peu galère de évidemment j'ai joué à Border Collie, évidemment
à la surprise de personne.
Ah bah non. Et Border Collie. Bon, maintenant, merci Bettina, déjà.
Ouais, parce que un peu de fantaisie.
Parce que je vois là et je fais oh, la réalité, quoi. Effectivement, le 1er octobre dernier, Microsoft a annoncé des changements pour son offre d'abonnement de jeux. Son offre d'abonnement qui s'appelle le Game Pass. Game Pass dont on a parlé en long, en large et en travers il y a un mois de ça.
Même pas, ouais.
Ouais, exactement.
La dernière fois que t'es venu, en fait.
Voilà.
Ou la fois d'avant. Non, on avait fait encore une émission après.
Non, ouais. C'est pour ça il y a un mois, il y a pile 4 semaines, en fait.
Émission disponible en replay.
Évidemment.
Voilà.
Sur le nerf de la game, Presse F5, évidemment. On salue donc Lupus et pas son logement apparemment.
Non, pour l'instant pas encore.
Voilà.
Pas encore.
On disait en fait ce qu'on pense, ce qu'était cette plateforme et l'utilisation que nous on en faisait, les avantages du côté catalogue, les inconvénients de la lisibilité de l'offre de manière générale. aussi. Et puis les avantages globalement économiques qu'avait Microsoft à avoir cette offre-là. Et ben apparemment Microsoft n'était pas extrêmement d'accord avec nous sur les avantages économiques parce qu'apparemment il fallait en faire plus. Vu que Microsoft a annoncé de nouvelles formules et surtout des nouveaux prix.
Ouais. Et du coup en préambule j'aimerais préciser que j'avais pas forcément envie de faire deux émissions sur le Game Pass, mais justement comme j'avais eu des paroles plutôt élogieuses quand on avait fait cette émission et que j'avais très rapidement évoqué le fait que ça posait quand même des questions sur la position plutôt hégémonique de Microsoft dans l'industrie du jeu vidéo, voilà, j'avais envie qu'on prenne le temps d'en parler. Et à ce moment-là, au moment de cette émission il y a un mois, c'était effectivement un moyen très rentable pour les joueurs et les joueuses d'avoir un accès en illimité à un vaste catalogue, mais justement la donne est en train de changer et c'est pour ça que je voulais qu'on passe un peu de temps à reparler de tout ça, parce que ça pose pas mal de questions sur les services d'abonnement de ce type et sur la place de Microsoft dans l'industrie, quoi.
Central.
Ouais.
Clairement central.
Parce que concrètement, on parle de changement de prix. Qu'est-ce que est-ce qu'on commence par ça?
Alors
par dire un petit peu qu'est-ce qui a changé.
Oui,
du coup.
Le truc c'est déjà.
Mais si c'est vrai comme tu le disais, il y a des, enfin les formules également. Y
effectivement, le truc c'est que ce qui a fait du bruit, c'est le changement au niveau du Xbox Game Pass Ultimate, qui est donc la formule la plus costaud,
complète.
La plus complète et qui est réservée aux joueurs possesseur de Xbox, d'accord, donc de console. Le truc, c'est que pourquoi ça a beaucoup gueulé, notamment aux États-Unis. Déjà parce qu'aux États-Unis, c'est le territoire où il y a plus de, en proportion, le plus de possesseurs de Xbox,
et d'abonnés du Game Pass.
Et d'abonnés du Game Pass. Pourquoi? Parce que dès le début, Microsoft a vendu les Xbox Series S et X comme des boîtes à Game Pass. Clairement. Le projet, c'était de dire vous achetez plus beaucoup de jeux, on s'en fout, vous avez le Game Pass. Et vraiment, ils faisaient des packs où tu achetais ta console et que tu avais l'abonnement qui allait avec, quoi, vraiment. Et donc, il y a un côté où, en tant que joueur, tu te sens pieds et poings liés aussi par rapport à cette offre.
Oui, tu es dépendant des augmentations, de l'évolution du contenu, du catalogue, etc.
Voilà, c'est ça.
Tu es très dépendant de ça, finalement.
Ouais. Sachant qu'une des grandes promesses de Game Pass, en tout cas sur Xbox, et c'est aussi le cas, le PC c'est un petit peu différent, on en parlera un peu plus tard, c'était la promesse que tu as les jeux, comme on dit, day one. C'est-à-dire que dès qu'un jeu de l'écurie Microsoft qui a acheté plein de studios sort un jeu, dès le premier jour tu peux en profiter sur le Game Pass et que t'as pas à l'acheter ailleurs, t'as pas à prendre
c'est ce qui justifiait la politique de rachat de studio pour Microsoft, en fait, c'est de fournir du contenu day one pour le Game Pass.
Sauf que désormais maintenant ils ont un nouveau système de formules où il y a trois gammes de prix différentes, et la seule formule qui permet d'avoir l'intégralité des jeux Microsoft en day one, c'est-à-dire de les avoir dès le premier jour de sortie, c'est la Ultimate, qui est donc la plus chère et qui coûte $27 par mois.
En France.
Waouh !
J'allais dire en France. Non, en France.
Waouh !
En France et donc en euros. Qu'est-ce que ça donne ?
Je sais pas parce que.
J'ai noté.
Ah, je t'en prie.
Justement, il passe de 17,99€ à 26,99€.
Ouais.
Okay, donc ils ont fait $26,99. 50%,
ouais.
Quoi.
Ouais. Ouais.
C'est colossal.
C'est une augmentation colossale. Alors, sachant que pour compenser, Microsoft a annoncé que, regardez, vous avez aussi du catalogue Ubi, du catalogue EA, et puis des V-Bucks Fortnite. C'est vrai, hein. C'est ce jeu de plaisante pince, c'est vraiment ça. Et que bizarrement, les joueurs étaient pas ultra joyeux par rapport à cette annonce.
Bizarrement, ça n'a pas suffi à compenser le truc. Non, bizarrement.
Sachant que, notamment, souvent, en fait, tu as. Je crois que. À un moment, tu voyais plein d'images où il y avait écrit Xbox 360. Avec un petit dollar derrière, parce que je crois que tu avais une formule où, à l'année, au final, ça te coûtait $360.
Ouais. C'est beau. Voilà. C'est poétique.
Non, non,
c'est
poétique. Bien.
La boucle est bouclée.
Ça pique. Hein.
En tout cas, par rapport au prix que tu payais avant.
Voilà. Écoute, je sais que tu as écrit un article sur Numérama. Est-ce que c'est le moment?
Alors. Pas le seul à l'avoir dit, hein, mais.
Je suis pas le seul.
Non, c'est vrai que la question de la valeur, finalement, du Game Pass, et au final, les études qu'on a pu avoir, notamment Christopher Dring, donc l'ancien rédacteur en chef de GameIndustry.biz, donc un peu une sommité dans le domaine, a déclaré justement à l'occasion de cette augmentation que les estimations, c'est que les joueurs de Game Pass, enfin les possesseurs de Game Pass, jouent pour l'équivalent de environ 500-600 dollars par an de jeu. Donc, ce qui leur coûtait avant, donc tu disais c'était 17 dollars à peu près par mois sur 12 mois, par rapport au prix, à la valeur, etc., c'était très intéressant. C'était une valeur qui était déjà beaucoup plus intéressante. Si ça monte à 26 dollars, donc à peu près 27 dollars, 26 euros.
99.
Voilà, dans ces eaux-là, tu le multiplies ça par 12, tu as déjà dépassé la moitié finalement de la valeur qui est estimée de 550, 600 dollars. Ça, l'intérêt déjà se réduit. Ça reste plus rentable en fonction du prix des jeux, entre guillemets, que les gens essayent. Maintenant, les gens essayent beaucoup de jeux parce que justement, ils ont déjà payé.
C'est ça.
C'est un fonctionnement qui est différent.
C'est
pas l'équivalent de vente, en fait. Les gens ont essayé des jeux qu'ils n'auraient pas forcément acheté. Donc, tu peux pas faire une équivalence.
Moi, ça me paraît étonnant. C'est exactement comme se dire, attends, les gens, ils regardent tant de films sur Netflix alors que s'ils avaient acheté les Blu-ray. Ça n'a pas de sens pour moi.
C'est la même logique que le piratage. C'est ce qu'on disait aussi.
Voilà, c'est ça. Ça n'a pas de sens pour moi.
Non, mais voilà. Mais malgré tout, si tu veux, ça montrait que, quoi qu'il arrive, le Game Pass en tant que coffre, restée intéressante au niveau du consommateur. Elle l'est moins. Elle l'est encore. C'est discutable. Est-ce qu'elle l'est encore? Point d'interrogation, même si.
Je trouve que côté PC, oui.
Mais côté console, effectivement, la question se pose vraiment. Bien sûr, parce que par exemple, on pensait. Tu parlais des jeux Day One, des jeux qui sortent, disponibles sur le Game Pass dès le jour de leur sortie. On pouvait parler, par exemple, d'un des jeux les plus attendus de cette année qui est sorti Day One sur le Game Pass, Silksong. Oui. Il est sorti à 20 euros. Mm-hmm. 20 balles, 20 dollars. Mm-hmm. Quand tu payes ton Game Pass 17 dollars, bon, est-ce que... tu vas jouer au jeu et tu vas pouvoir jouer à d'autres jeux en plus. Mais si tu payes ton Game Pass plus cher que le jeu de base, à quel moment ça reste intéressant, quoi. C'est un vrai calcul.
Oui, et puis en fait, en l'espace de quelques mois, en fait, Microsoft a augmenté les prix de ses consoles, puis de ses jeux, et maintenant de ses abonnements. Et sachant que ce qui cristallise encore plus le mécontentement des gens, c'est que la présidente Sarah Band avait déclaré lors du Tokyo Game Show 2025 que le Game Pass était rentable. Du coup, la pilule, elle passe pas du tout. Pourquoi faire une augmentation aussi forte? Évidemment, les gens se crispent, en fait.
Attends, le Tokyo Game Show 2025, c'était il y a longtemps, c'était il y a un mois et demi. Depuis, tu sais pas, il y a des crises. T'en sais rien.
Parce que pour moi, l'explication, elle est relativement mathématique. C'est thune égale pognon. Tu vois,
ah non, mais bien sûr.
Elle est là, la logique. Mais...
Évidemment que la logique de Microsoft, c'est ça. Mais du coup, les gens ne peuvent pas être avec ça.
Voilà, on est plus sur la réaction, effectivement, des qui
bien sûr.
Où quand on t'augmente de quasiment 80%, en fait, le prix de ton abonnement.
Sur le. Oui, il faut voir de quoi tu parles. Mais,
oui. Mais bon, c'est. Enfin, en tout cas, c'est pour l'offre maximale, je pense que, on est. Plus 60 ou plus 70% quand même, ça fait beaucoup, quoi. Mais effectivement, le truc, c'est que il y a des gens qui avaient prévenu que ça arriverait. Il y a des gens qui avaient prévenu que ça arriverait. Faut pas oublier que en juillet 2023, Microsoft a obtenu une victoire importante pour son projet d'acquisition d'Activision Blizzard, un grand éditeur, pour la coquette somme de 69 milliards de dollars, c'est-à-dire même pas un IA.
Oui, c'est un IA et un tiers.
Voilà.
Un IA 1,3, tu vois.
C'est-à-dire vraiment une paille. Et il y avait donc un juge de fédéral de Californie qui avait rejeté la demande de la Commission fédérale du commerce américaine, donc la FTC, qui voulait bloquer la fusion pour des raisons de concurrence. en disant que ça donnait une position trop avantageuse à Microsoft. Et le juge de Californie a dit non, non, t'inquiète, t'inquiète, ça va le faire. À l'époque...
Ça peut se discuter sur le fait de position dominante, parce que c'est pas forcément lié. Enfin, ça, elle avait dit que... Enfin, bref, disons que les conséquences qu'on observe aujourd'hui, on aurait pu les observer même s'ils n'étaient pas en position dominante. On en reparlera avec Electronic Arts, qui n'est pas en position dominante. On verra si les résultats, si les conséquences ne sont pas exactement les mêmes.
Le truc, c'est que après, quand tu vois que les raisons invoquées, on parle beaucoup de Call of Duty. Bon.
Disons que les raisons, c'est globalement rembourser cet investissement.
C'est ça. Donc c'est oui.
Donc c'était pas lié finalement au fait que on est dominant, donc on fait ce qu'on veut. C'est on a payé beaucoup beaucoup, donc on doit gagner plus. On gagne beaucoup, c'est rentable comme tu le disais, c'est rentable, mais il faut qu'on continue à croître. C'est surtout là la question.
La FTC avait déclaré à l'époque : nous sommes déçus de ce résultat, étant donné la menace évidente que cette fusion représente pour la concurrence ouverte dans les jeux sur le cloud, les services d'abonnement et les consoles. Lina Khan, qui a dirigé la FTC pendant cette intense bataille juridique, qui visait donc à bloquer l'accord entre Microsoft et Activision, a réagi ce 3 octobre, après les annonces de hausse de prix et la grogne bruyante des utilisateurs sur les réseaux sociaux, en disant. L'acquisition d'Activision par Microsoft a été suivie d'importantes hausses de prix et de licenciements massifs, ce qui a nuit à la fois aux joueurs et aux développeurs. Et ajoute, comme nous l'avons vu dans tous les secteurs, la consolidation croissante du marché et l'augmentation des prix vont souvent de pair.
Je suis d'accord avec le constat. Je me demande à quel point c'est parce qu'ils sont... Pour moi, c'est parce qu'ils ont dépensé beaucoup.
Oui.
Qui gagnent beaucoup, mais pas assez, et que la croissance est là, mais pas assez.
Oui, mais c'est ça, mais en même temps...
Et du coup, je ne sais pas à quel point, c'est pas une question qui se serait posée, si qu'ils aient racheté Activision ou pas.
Mais ça arrive parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent. C'est-à-dire que oui.
Mais c'est pas lié à leur position dominante.
S'ils ne dépensent pas autant d'argent, ils n'ont pas de consolidation, et donc il y a un marché qui est beaucoup plus concurrentiel, où c'est beaucoup plus dangereux de faire ce genre de move, d'augmenter... Oui.
Pour moi, c'est extrêmement dangereux de le faire tout court, parce que tu perds tous les...
Beaucoup moins, là, parce qu'ils ont moins de concurrence.
De concurrence sur ce genre de proposition, oui.
Bah oui.
Mais encore une fois, je fais le rapprochement avec combien coûte un jeu qui vient de sortir et combien te coûte le Game Pass. Si maintenant, avant, tu avais 3-4 mois de Game Pass pour rentabiliser un jeu qui vient de sortir, si maintenant c'est 2 mois... T'as déjà une réflexion différente, en fait.
La réflexion,
sur le prix de ton abonnement par rapport au jeu.
La réflexion, en fait, c'est OK, tu veux pas du Game Pass et t'aimes pas Microsoft, tu vas faire quoi ? Et la réponse est il y a des choses, mais il y en a beaucoup moins qu'avant. Parce que avant, tu pouvais dire j'ai envie d'aller voir. Si c'est mon Call of Duty, j'avais cette proposition, sauf que là, je suis avec un abonnement, j'ai mon abonnement et je suis lié avec mon abonnement, tu vois.
C'est vrai que ça concerne 34 millions, c'était 35 millions d'abonnements au Game Pass. Hein, le chiffre de début d'année.
C'est pas rien. Hein.
Ouais, ça fait un moment qu'ils n'ont pas communiqué dessus. Mais
ouais. Oui, ils restent opaques, comme d'habitude.
Parce que justement, il y avait toute la question de ce qui a été déclaré il y a peu de temps par des anciens employés de Microsoft à Bloomberg, qui disaient qu'ils estimaient en interne
que c'était pas rentable.
Que le fait que le dernier Call of Duty était présent sur le Game Pass a représenté un manque à gagner en vente. Pour Microsoft, de 300 millions de dollars.
Mais même avant les Call of Duty, il y avait déjà des discussions qui disaient que globalement, le modèle n'était pas assez rentable pour les studios Microsoft en interne. Parce que avant, les studios Microsoft en fait, se disaient je sors un jeu et ensuite il y a les chiffres de vente de ces jeux. Sauf que maintenant, il y a juste le nombre de joueurs globalement, et après, c'est Microsoft qui fait sa tambouille pour distribuer les bons et les mauvais points.
Bah, disons que avant.
Donc il y a une opacité grandissante qui met les studios en interne dans une merde.
La grosse différence, c'est que si tu n'es pas un studio interne à Microsoft et que tu veux être, et que tu es dans le Game Pass, c'est qu'on t'a fait une proposition financière. Donc tu vas toucher de l'argent, quoi qu'il arrive. Pour être dans le Game Pass, en plus des ventes que tu vas faire ailleurs. Ce qui n'est pas le cas pour les studios internes de Microsoft, qui ne touchent pas d'argent pour être présents dans le Game Pass. Donc ils vont être valorisés par rapport aux ventes qu'ils font à l'extérieur, et le nombre de joueurs éventuellement
qu'il y a dans le Game Pass. Et c'est le cas aussi des studios désormais Activision.
Du coup, parce qu'ils sont internes à Microsoft. Mmh. Oui, par rapport à ça, oui. Mais c'est pour ça que c'est, ça peut pas être... Enfin, c'est pas comparable parce que tu n'as pas Microsoft qui donne de l'argent à un studio externe pour être dans le Game Pass, comme ils ont pu le faire avec la Team Cherry, pour que Silksong soit dans le Game Pass. Ils ont touché de l'argent pour que le jeu soit dans le Game Pass. Ce qui n'est pas du tout la situation des studios internes, effectivement, qui maintenant incluent également les studios Activision, oui.
Ce qui fait qu'ils sont dans la merde, du coup.
Disons que, en fait,
les studios internes sont dans la merde.
Le projet,
parce qu'ils ne peuvent pas dire, ils ne peuvent pas s'appuyer sur un chiffre de vente.
Non.
Ils sont obligés de. Ils ne peuvent pas s'appuyer sur un chiffre de vente pour justifier de leur activité et pour justifier de leur liberté. Ils sont obligés de se baser sur des chiffres qu'ils ne maîtrisent pas, qui sont le nombre de joueurs,
nombre d'abonnements,
le ratio d'abonnements qui est bien sûr
qui est rajouté à leur sortie du jeu.
Voilà.
Et c'était le projet, de toute façon, c'était le projet de Microsoft, que d'augmenter ce nombre qui était déjà à peu près 30-32 millions il n'y a pas si longtemps. Je crois que ce qu'ils avaient annoncé, c'était quasiment 1,5 ou 2 millions de plus le mois de la sortie du dernier Call of. Mais c'est pas assez par rapport à ce qu'ils voulaient et par rapport à ce que à l'objectif en tout cas qu'ils avaient visiblement. C'était vu qu'ils modifient leur proposition et les prix, je pense qu'il y a aussi ce constat-là, que c'était pas que ça a augmenté. Le nombre d'abonnements au Game Pass a augmenté à la fuite de l'abonnement, enfin de l'acquisition d'Activision. Mais je pense qu'ils attendaient plus.
Bettina, est-ce que tu avais lu des choses sur les raisons en fait qu'invoquaient les personnes pour justifier cette augmentation ?
Non, enfin si, j'ai vu. En fait, ils justifient ça en détaillant les ajouts qu'il y a dans ces offres. Tu t'en as parlé tout à l'heure, un peu rapidement. Je me les suis notées, mais c'est pas forcément très intéressant que je décrive tout ça, parce que en vrai.
Ça, c'est les raisons que Microsoft te donne,
ouais,
c'est ça.
Ouais.
Et toi, est-ce que le truc, c'est que en gros, là, il y a que des entre guillemets spéculations sur pourquoi le Microsoft fait ce mouvement maintenant. On parlait avec Romain notamment de la partie Activision par rapport à Call of Duty et les résultats de Call of Duty et l'argent qui était espéré par Microsoft sur la sortie de Call of Duty. Est-ce qu'il y a d'autres raisons que tu as vues qui auraient pu être invoquées ?
Non, j'ai rien vu de tout ça, non. Après, ça reste des spéculations en fait, hein, donc non. Juste effectivement, enfin la stratégie de Microsoft, là, ça a l'air justement de voir si les gens sont enclins à. Je m'étais noté un truc, je cherche mes notes, pardon.
Pas de souci.
À suivre l'augmentation.
C'est ça. Et
voir s'il y aura un impact sur le nombre d'abonnés.
Ouais, s'ils acceptent en fait des coûts plus élevés en échange de bibliothèques plus importantes et d'avantages premium, notamment avec ces histoires d'accès ou non au jeu Day One. Mais en fait. Le sentiment qu'on a en tant qu'utilisateur du Game Pass, c'est plus qu'on nous retire des choses en nous disant si vous voulez à nouveau les avoir, il faut payer plus cher. Et du coup, c'est pas. Enfin, la réception est forcément pas bonne, quoi.
Toi, tu utilises le Game Pass PC, c'est bien ça ?
Oui, c'est vrai que du coup, en voyant tous ces changements sur les offres d'abonnement, je me suis rendu compte que j'avais pas précisé ça quand on avait fait l'émission. Mm-hmm. Effectivement, nous, on n'a pas de console Xbox à la maison. Enfin, on a une vieille 360, mais c'est tout, quoi. Donc non, nous, on a le Game Pass, le PC Game Pass. Mm-hmm. Et je vous disais tout à l'heure, avant de vous rejoindre pour l'émission, que j'étais encore en train de lire des articles qui parlaient de tout ça, parce que j'ai eu grave du mal à comprendre tous ces changements d'abonnement. Il a fallu que je lise plein d'articles et que je recroise toutes les infos pour enfin comprendre en fait les changements qu'il y a eu, et du coup ce qui ressort, c'est qu'il y a des gros changements sur le Xbox Game Pass, donc pour les consoles, mais par contre l'offre PC Game Pass, elle est toujours là, c'est juste qu'on en a moins entendu parler. Elle a aussi augmenté de prix, pareil, je cherche dans mes notes.
On est passé à 19, c'est ça ?
Non, on est passé de 12€ à 16€.
C'est
Non,
plus.
Non, c'est... Non,
16,99
non. Attendez.
Ouais, plutôt, parce que...
Pour moi, c'est 16.
15,99, ça me paraît peu, en fait.
Non, on est passé de 11,99 à 14,99.
Ah oui, c'est 14,99. Okay. Okay, okay. Bah, tu vois, moi j'avais 16 en tête, mais donc,
ouais, non, c'était c'est augmenté que, ça. Que
de 12 à 15. Euros, okay.
Donc ça augmente aussi. Bon, ça fait un peu chier, mais c'est moins.
C'est une augmentation de 36 euros à l'année. Donc c'est comme si t'achetais un jeu
ouais,
globalement et pas et enfin un jeu PC.
Ça reste beaucoup plus acceptable. Du coup, oui, ça pose aussi la question de c'est quoi ce move de Microsoft ? Est-ce qu'ils sont pas en train de nous dire tous laissez tomber les consoles et partez sur les PC en fait ?
C'est étonnant, hein, parce que
surtout que ça va un peu à l'encontre de ce que du message de Microsoft ces derniers temps. Je sais plus depuis combien de temps ils ont commencé à dire ça, où n'importe quoi est une Xbox.
Oui, oui.
Tu sais, ce truc où ils te disaient ta tablette c'est une Xbox, ton téléphone c'est une Xbox, parce que tu peux avec le Game Pass, les abonnements, jouer quand même à des trucs.
En tout cas, ils parlent encore de cette offre Xbox Cloud, ils en parlent encore,
ouais,
c'est pas concret. Ils l'évoquent.
Et ça fait partie du
concret,
Ultimate,
ouais,
d'ailleurs, ça fait partie du Ultimate.
Oui. Et j'ai toujours pas compris ce que c'était, mais oui, ça fait partie, ils essayent en tout cas de le mettre en avant avec ces nouvelles offres.
C'est un truc façon Nvidia Gage, là, c'est
pour
ça
moi, pour moi, c'est un truc du genre, Shadow.
Ah ouais, carrément.
Non. C'est pas ça ?
Peut-être.
Oui, c'est du cloud gaming.
Tu
payes l'abonnement pour avoir accès finalement à des jeux qui tournent sur des ordis déportés du tien et streamés entre guillemets.
Ouais, mais Shadow, je crois que tu as un côté administration et tout. Et là,
oui,
je
Shadow,
pense qu'on n'est pas
Shadow,
du tout là-dessus.
Shadow, en fait, tu as accès à un ordi sur lequel tu as un système d'exploitation et tu fais ce que tu veux dessus. Donc il faut que tu possèdes les jeux en dehors. Okay. Ouais. Ça fait pas partie de
l'abonnement. Moi, j'ai l'impression que c'était un peu comme GeForce Now.
Ah, peut-être plus, alors ouais, c'est peut-être un peu plus que proche de ça. Ouais,
c'est-à-dire que tu peux jouer en gros des jeux que tu possèdes, en fait, tu peux y jouer en cloud gaming avec un ordi plus costaud.
Ouais. Plus costaud que le tien, du coup, et qui t'évite de racheter du matériel.
Par contre, ça demande une connexion de ouf, mais enfin une connexion stable, en tout cas.
Disons que c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent de façon générale en Europe, effectivement, à des prix abordables.
Par rapport
beaucoup moins le cas aux États-Unis. Et même dans pas mal de pays du monde, en vrai.
C'est clair, oui.
Donc c'est aussi pour ça que finalement le cloud gaming, on avait toujours la discussion sur qui est-ce que ça vise et qui est réellement susceptible d'en profiter dans les bonnes conditions.
Ouais, c'est ça. Pour conclure là-dessus, est-ce que ça vous fait changer votre vision du Game Pass et de Microsoft de manière générale ?
Alors, j'utilisais pas le Game Pass avant.
Ok.
Je vais pas l'utiliser plus après.
Très bien.
Même si ce qui est rigolo, c'est que depuis deux jours là, je vois beaucoup de communication sur la quantité de jeux qui va être ajoutée au Game Pass.
Ouais.
Là,
ouais,
ils ont dit, en octobre, il y en aura 19 nouveaux. Ça, ils sont en mode, regardez, on vous donne du contenu quand même.
Exactement.
Vous allez payer plus cher, mais on vous donne des trucs.
Tu sais, il y a combien de jeux sur Steam par jour qui arrivent ?
Là, ils sont disponibles pour l'abonnement.
Oui, pardon, c'est ça.
Ça n'a rien à voir.
Oui, non, mais.
Ça n'a rien à voir. Ils sont disponibles pour l'abonnement. Et dans les jeux, tu as des trucs qui vont sortir le jour même. Tu as effectivement Outer Worlds 2, Keeper de Double Fine. Tu as un petit jeu, pas très intéressant, Ball Pit. Je sais pas ce que c'est, qui va être dispo sur le Game Pass Day One. T'as un paquet de trucs comme ça qui vont sortir là. Ils ont pas arrêté d'en faire un petit peu de la communication pour dire, vous avez payé plus cher, etc. Mais on augmente l'offre et on l'améliore. C'est la communication qui va autour. Ouais. C'est ça qui est. Ça reste intéressant en tant que communication. Quoi.
Du coup, là-dessus, ils ont été vraiment super mauvais parce que ils ont fait passer ces grosses augmentations de prix comme ça, un peu en fufu, en mode paf, surprise.
C'est vrai que du jour au lendemain, ouais.
Et alors que s'ils avaient été de bons communicants, ils auraient commencé à en parler avant. Ils auraient commencé à tâter le terrain, à préparer le terrain surtout, à préparer les gens à ce qu'il y ait des changements. Là, personne n'était prêt à ça, donc c'est pour ça que ça surprend tout le monde. Justement, suite à ces annonces d'augmentation de prix, les gens se sont rués pour annuler leurs abonnements et les résiliations massives ont carrément fait crash le site. Du coup, là, ils sont en train de se dire « Ah merde, on n'en a pas très bien parlé avant. » Du coup, là, on va rassurer tout le monde en disant « Ah mais regardez tout ce qu'il y a dans les nouveaux abonnements. »
Évidemment.
Voilà. Mais ça arrive à posteriori, c'est un peu nul.
Je suis d'accord avec toi, en termes de communication, c'est pas dans le bon ordre.
Non.
Plutôt que, le truc, c'est au lieu de dire, en fait... l'effet de l'offre que tu avais déjà, elle existe encore, mais par contre, il y en a une qui est supérieure, il y a encore plus de trucs.
Ça aurait été intelligent, effectivement.
Mais là, ils ont dit non, tu vois ce que tu avais avant, en fait, voilà.
Tu crées l'ultimate avec des trucs en plus, plus cher, Mais tu gardes, tu laisses aux gens ce qu'ils avaient avant.
C'est ça.
Ou t'aurais, en fait, t'aurais très bien pu dire, en fait, il y aura certains, en fait, il y aura certains jeux Day One qui seront dans la version du milieu, qui est au même prix que celle
que
t'as déjà. Mais par contre, t'as l'Ultimate où t'as des jeux encore plus premium, gros machins, tu sais, les Starfield, les trucs comme
les
ça.
Trucs,
tu
vois. Les vraiment les gros trucs développés en interne.
Voilà. Ou là, par contre, il faut l'Ultimate. Tu vois.
Et en plus de ça, on en a rarement parlé, mais malgré tout, c'est un phénomène qui existe. Les gens sont prêts, on le sait, hein, à payer un poil plus cher pour jouer en avance avec ces systèmes de pas de l'early access, mais du je paye 20 balles plus cher souvent pour certains AAA pour avoir le jeu 3-4 jours avant, voire une semaine, pour avoir accès au truc.
Moi, ça me dépasse personnellement.
Je comprends pas non plus.
Moi aussi,
le phénomène, en fait, sur un jeu multi sur lequel tu es censé apprendre pour derrière en fait être plus fort en compétition, je peux l'envisager, je peux comprendre la logique, même si économiquement ça me semble complètement débile. Mais sur un jeu solo, comme tu dis, ça n'a strictement aucun sens. Et pourtant, on sait que ça se fait. On sait qu'il y a des gens qui sont prêts à payer plus. C'est pour ça que la logique de dire, tu peux toujours payer la même chose qu'avant, mais si tu payes un peu plus, t'as un peu plus. Ça, on sait que ça marche.
Ça marche, c'est une logique qui donne
envie.
D'ailleurs, c'est Monsieur Plouf qui disait que désormais, en fait, le prix des jeux, c'est plus 80€, c'est 100€. Parce que en fait, les jeux, en fait, ils sont disponibles à une date à 100 balles, et 3 jours après, ils sont disponibles à 80 balles.
C'est ça.
Parce que en fait, c'est pas tu as le droit avant, c'est de base, tu as un prix.
C'est ça, t'as un prix avec une date de sortie.
T'as un prix et une date de sortie, t'as un prix avec la deuxième date de sortie 3 jours après, qui est de 20 balles de moins, quoi. Et ça choque personne.
Et on voit que ça fonctionne. C'est pour ça que je dis que ça aurait eu du sens.
Bah oui.
Tu fais payer les gens plus cher pour quelque chose.
Oui, bien sûr.
Qu'ils aient les jeux en avance, visiblement, ça suffit. C'est pas non plus. Faudrait avoir des vrais chiffres. Ça fait peut-être 2 ans que ça existe, ce système. Enfin. Globalement, je
pense. De quoi ?
Le fait d'avoir les jeux quelques jours en avance ça fait pas si longtemps.
Souviens-toi, Ubisoft le fait depuis longtemps avec Assassin's Creed, avec un succès. Ils le font depuis longtemps. À chaque fois, c'est un succès parce que le truc il crache dans tous les sens et que c'est un enfer. Okay. Mais ils le font tout le temps.
Mais en payant plus cher et parce que le fait d'avoir l'accès anticipé comme ça.
En fait, ils le font pas payer à l'acte, ils font payer sur l'abonnement. Tu sais, quand t'as l'abonnement Uplay, en fait, tu peux y accéder un peu avant.
D'accord.
Et ce serait le même principe.
Et oui, que sur le Game Pass, bien sûr. Et ça aurait eu du sens, même économiquement, je trouve. C'est ça qui est bizarre, comme tu disais.
Mais oui. Du coup, moi, je m'étais noté aussi des questions du type est-ce que ces hausses de prix sont ponctuelles ou est-ce qu'elles annoncent une tendance vers des abonnements de jeux de plus en plus chers ? Ça, l'avenir nous le dira.
On parle beaucoup de jeux de plus en plus chers
aussi,
de toute façon, donc ça et il y a beaucoup de d'internes aux jeux vidéo qui disent que les jeux vidéo sont pas assez chers actuellement, etc. par rapport aux grosses productions. C'est pas une idée auquel je souscris, mais en tout cas c'est quand même une lame de fond, un bruit de fond qu'on a déjà depuis un certain temps.
C'est ce qu'on disait un petit peu. Le prix des jeux des AAA, les jeux les plus chers, rattrape l'inflation depuis, parce que les jeux sortaient déjà à 60€ dans les années 2000-2005. C'est à peu près dans ces eaux-là que j'avais trouvé des jeux qui sortaient Day One à 60€. Quand effectivement 15 ans plus tard, avec toute l'inflation qui est passée par là, les jeux sont toujours à 60€, fatalement ils sont si tu suis l'inflation, c'est logique de les vendre plus cher. Je dis pas que c'est forcément une bonne chose, je dis pas que c'est forcément la meilleure méthode économiquement, etc. C'est juste que tout est plus cher, du coup, pourquoi pas les jeux. En tout cas, je pense juste que début des années 2020, c'était globalement un statu quo à ce niveau-là. 2020, c'est à peu près à l'époque où on a vu commencer à arriver les jeux à 70€, et donc un minimum d'ajustement par rapport à ça. Est-ce que ça suffit ? Est-ce que... Comme on l'avait dit pendant la période
même
du Covid.
Même actuellement, il y en a qui disent les jeux devraient être à 100 balles et pas à 80.
Oui, mais déjà 80, en fait, 80€ d'aujourd'hui, c'est 60€ d'il y a 20 ans.
Oui.
Donc c'est pour ça que ça aurait du sens à ce niveau-là.
Et puis des gens plutôt bien placés, c'est-à-dire chez Rockstar, des gens qui disent ça. Donc, après, on sait tous, GTA 6 sera à 100 balles, les gens crieront et l'achèteront quand même. Donc voilà.
Et Borderlands 4 n'est pas sorti à 80€ parce que les gens ont gueulé. Et Outer Worlds 2 sortira pas à 80€ parce que les gens ont gueulé.
Oui, mais j'étais assis. C'est comme s'ils sont. C'est au-dessus.
Oui, c'est en dehors. Je suis d'accord avec toi. Hein. Mais c'est pour ça que ça n'a pas d'intérêt dans la conversation, parce que c'est en dehors. Et que je ne sais pas à quel point ça servira d'étalon pour le reste de l'industrie. Sinon, on pourrait avoir la même discussion pour tous les indés devraient être à 20 balles puisque Six Song est sorti à 20 balles. Alors qu'on sait très bien que c'est pas, ça n'a pas de sens de le voir les choses comme ça.
Yes. Ben, merci, merci à vous deux. Et all hail to the Game Pass. Hein. To the new Game Pass. Pardon, to the Game Pass, Xbox Game Pass Ultimate. Pardon.
C'est ça. Voilà. Et jouer sur PC, c'est moins cher. Voilà. C'est un message que j'ai à passer.
Ah oui, oui, oui. Voilà.
En parlant de jeux sur PC, il est temps de parler de drogue et d'addiction. Romain, c'est une intervention. On va parler de Clover Pit.
Ça va très bien. En vrai, j'y ai pas joué depuis vendredi. Tout va très bien.
Oui.
Oh. Écoute, regarde, y a même pas de marque sur mes bras. Non, tout va très bien.
Tu te grattes de façon assez intense. Et...
J'ai perdu la moitié de mes cheveux. Je vois pas de quoi tu parles.
Est-ce que tu peux nous présenter Clover Pit, s'il te plaît?
Ok. Clover Pit, c'est un bandit manchot. Vous voyez ce que c'est que le bandit manchot? Cette machine où on tire la manette et ça fait tourner des roues en fait et il faut aligner des symboles.
Les machines à sous dans les casinos.
Exactement, c'est vraiment ce principe-là. Sauf que là, c'est adapté à un système qui fonctionne relativement bien depuis quelques temps là. On va dire le balatro-like, c'est-à-dire que c'est une sorte de rogue progressif, c'est-à-dire qu'en fait tu vas devoir, tu es enfermé dans une pièce complètement pourrie. Il y a des mégots de clopes, il y a des toilettes cassées, il y a des bières à moitié pleines. C'est un endroit tout pourri, ça doit sentir la mort là-dedans. En gros, tu es enfermé là-dedans et on va te demander à intervalles réguliers de plus en plus de pognon pour rester en vie, pour te maintenir en vie dans la pièce. Si à un moment ou un autre, tu n'es pas capable de donner assez d'argent pour passer le seuil qu'on t'a demandé d'atteindre, il y a une trappe qui s'ouvre sous tes pieds et je ne sais pas où tu finis, mais ça fait sproch. Donc bon.
Mais tu es mort, c'est marqué que tu es mort.
Globalement, hein, oui. C'est. Et donc voilà, tu es dans cette configuration et tu dois, comme dans un balatro, comme dans, souvent dans les principes des rogues, tu dois faire progresser ton, on va dire, la façon dont sont calculés tes points, quand tu fais des combinaisons de symboles, pour gagner de plus en plus d'argent et survivre. Donc tu vas pouvoir acheter ce qu'on appelle des porte-bonheur, qui vont avoir un impact sur les règles du jeu. Modifier les règles, modifier la valeur de trois chiffres, enfin de trois symboles qui sont l'un à côté de l'autre, modifier la valeur des sept, des diamants, des citrons, enfin des différents symboles sur lesquels tu as que tu peux faire sortir justement en jouant. Et donc tu vas jouer sur des multiplicateurs, tu vas jouer sur un peu tout ça pour essayer de maximiser ton score à chaque fois, tout en étant complètement dépendant de la chance. Mmh. Et donc voilà, tu vas être toujours à, vas-y, je vais relancer une fois de plus, je vais relancer une fois de plus, ça va, je vais me refaire, je vais finir par arriver à atteindre le score. Si je tombe sur la bonne combinaison, ça va marcher. Et voilà. Et donc, tu as toujours envie de continuer, de progresser, et de trouver, ok, ça n'a pas marché cette fois-ci, mais la fois d'après, je vais y arriver.
Il se passe bien cette interview bancaire?
c'est l'avantage du jeu, c'est que bah, tu l'achètes une fois, et en plus, c'est pas si cher, je crois qu'il a dans les 10 balles. Dans les 10-15 euros. Donc c'est le prix parfait pour ce genre de produit. C'était le prix de Balatro.
Oui, effectivement.
Donc voilà.
Et de Wordatro aussi ou pas?
Non, pas à 10 balles. Si.
Je sais plus.
T'es à 10 balles, non?
Plus, je crois que c'était 12. Je crois que j'ai payé 12.
Plus, okay.
12, 14, je sais plus. Faudrait voir. Mais ça m'avait bien accroché aussi, Wordatro, ouais, pour les mêmes raisons.
Bah, moi, tu vois, en théorie, ce serait pas mon truc. Genre, Balatro, c'est vraiment pas pour moi du tout. Mais ce qui peut-être m'intéresser, là, c'est qu'il y a une vibe un peu inscription. Il y a un enrobage, en fait, autour. Ouais,
ça a l'air bien glauque.
Des mécaniques.
Ouais.
Et du coup, là,
il y a
déjà.
Un message aussi.
Voilà, là, déjà, ça peut plus me parler. Ça peut-être me plaire.
C'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai pas pensé à Balatro tout de suite. J'avais pensé effectivement à Inscription et un peu, tu sais, les Ends of Fate ou ce genre de truc où tu as une ambiance autour qui fait que c'est un peu, enfin, il y a plus que simplement le jeu qu'il y a devant toi,
ouais,
parce
que
c'est pas, en gros, c'est pas juste une machine à sous, c'est une ambiance dans laquelle il y a une machine à sous et qui te raconte des trucs.
C'est ça. Et ça marche pas mal.
Et pour moi, c'est la grosse différence avec les Balatro ou avec les Wordatro, qui sont eux, ce sont des jeux.
Oui, c'est vraiment basé sur la mécanique.
C'est basé que sur la mécanique, et là, il y a un truc un peu, un peu externe. Et
t'as envie de savoir, t'as envie d'apprendre, qu'est-ce qu'il y a d'autre, etc. Qu'est-ce que tu fous là, qui fait ça, qui te parle, qui t'appelle au téléphone de temps en temps.
Ouais.
Voilà, tout ce délire.
Ouais, il y a un truc où tu finis par te demander si c'est pas, tu sais, un Pony Island ou un truc comme ça, tu vois. S'il n'y a pas un truc derrière, voilà.
Encore plus louche que ça en a l'air.
Merci pour cette présentation et puis désolé. Hein.
Oui, t'inquiète. Mais après, je pars vite après à l'émission, j'ai des trucs à faire.
Tu feras attention, tu trembles. Moi, j'ai envie de vous dire que l'heure est grave, mesdames et messieurs, Baboulone est tombée. Après la chute impromptue d'une météorite qui a dévasté cette cité, la cité de Baboulone, il ne reste plus qu'un trou béant et sinistre. Les chasseurs de trésors sont venus du monde entier pour sonder les profondeurs à la recherche des trésors. Bien peu en reviennent, et le groupe abrite des armées de créatures barbares bien décidées à mettre fin à cette quête de trésors. Heureusement, on a un arsenal en perpétuelle évolution qui nous permettra de explorer ces donjons, les Béboules.
T'as été payé combien pour lire le texte officiel? Juste pour savoir.
Honnêtement.
Autant que pour les quiz.
Honnêtement, le vrai problème de Bold Pit, c'est que j'ai pas besoin d'être payé. C'est ça le problème de la drogue que m'a procuré la démo de ce jeu. Donc en gros, on est sur un casse-brique à la base.
Oui, c'est du genre arcanoïde.
Là, exactement. En fait, un peu comme justement ce que tu disais sur Clover Pit. Si on se base uniquement sur la partie jeu, si dans Clover Pit c'est une machine à sous, là c'est un arcanoïde, un casse-brique. C'est-à-dire que il y a des ennemis qui sont en haut, qui vont descendre de plus en plus vers toi, et puis toi tu as un personnage qui peut balancer des projectiles. Et au début tu vois que ça rebondit sur les autres, ça rebondit sur les murs, ça rebondit sur les ennemis et ça revient vers toi. Et le premier truc qui te semble étrange déjà, c'est que même si la balle, même si tu rattrapes pas la balle, le jeu il s'en fout, il continue à balancer des.
Oui, la balle revient.
La balle revient et tu dis bon bah ça a pas trop d'intérêt, ça va être un peu facile. Sauf que en fait tout est calculé pour qu'il y ait un peu trop d'ennemis par rapport à ce que tu peux faire, et que à chaque fois que tu tues un ennemi, tu récupères des trésors, un peu comme dans un Vampire Survivor. Et que au bout d'un moment, il y a une musique de casino qui se met en place, genre hey, t'as gagné un truc. Bon bah, je vais regarder alors. Ce que tu regagnes, en fait, ça va être des grosses boules spéciales avec des pouvoirs, des lasers, des boules fantômes, des boules qui rebondissent plus, des trucs qui
de la lumière, des couleurs, des trucs qui pètent. T'es super sensible à ça.
La drogue. La drogue, ça pète.
Le LSD en couleur.
Non, mais là, c'est du casino. C'est vraiment du... Imagine du casino dans des arcs-en-ciel. Tu vois. Et ben, c'est ça. Et ben, au fur et à mesure, tu dis, hey, mais en plus, c'est trop bien. Ça, et puis, ça met plus de choses à l'écran. Ça commence à péter de partout. Et quand tu découvres qu'en fait, les effets des boules, tu peux les fusionner pour les cumuler, alors là, globalement, c'est terminé. C'est terminé. Tu dis, hey, je vais faire la béboule ultime. Et non, mais là, c'est parti pour des.
Bah, c'était il y a 5 heures. C'était il y a 5 heures et t'es encore dedans. Quoi.
J'aurais pas dû venir. Et c'est pour ça. Et ça, c'était donc la démo du jeu qui avait été présenté donc à la conférence Devolver. Le seul jeu présenté à des conférences Devolver. Conférence Devolver qui était très étrange. Mais j'allais dire plus étrange que d'habitude. Voilà. Et il y avait juste cette démo, on disait tiens c'est bizarre, Devolver présente qu'un truc. Et en fait ils ont dit non, ce sera juste un shot de crack. Voilà, ouais. Débrouillez-vous.
Et ils savaient, hein. Ils savaient qu'ils avaient que ce jeu-là.
Ils avaient que ce jeu-là.
Ah bah je pense que ça fait leur revenu pendant deux ans.
Ah ouais, parce qu'en fait ils ont trouvé, ils étaient confiants. En plus il est bizarre votre jeu, on n'arrive pas trop. La conférence n'arrivait même pas à expliquer ce que c'était vraiment.
C'était pas le projet. Hein.
Ah ouais, ouais.
C'était pas le projet d'expliquer le jeu.
Et moi, je me souviens, sur Press F5, j'étais genre le premier à y jouer de façon intensive. Et après, on va dire que j'ai fait l'évangile. J'ai répandu la bonne parole, quoi. Donc, ça sort le 15. Mais il faut savoir qu'il y a
mercredi prochain.
Ouais, mercredi prochain. Il faut savoir que la démo est déjà disponible. Et cette bande de gros bâtards, la démo était déjà assez profonde. Et depuis, ils ont fait des updates sur la démo pour que tu continues à avoir ton fixe en disant, hey, c'est bon, j'en ai encore. Et puis, une fois que tu auras la fin de la démo, dis. Non mais tu sais maintenant le jeu il coûte 15 balles. Tu peux y aller maintenant, c'est vraiment du deal de drogue. C'est, hey, viens prendre ma méthamphétamine, la première dose est gratuite.
Et que 15 balles, franchement, ouais. C'est pas cher,
hey, franchement 5 de moins que Silsong, franchement
Oui. Quelle arnaque ce Silsong.
Bettina, est-ce que t'as une drogue en ce moment, toi ?
Bah, justement, j'ai réfléchi quand vous avez parlé de vos addictions respectives. J'ai cherché et j'ai rien trouvé. Et en fait, je pense que c'est parce que des jeux purement mécaniques ne m'attirent pas.
Faut une histoire.
Ou rarement. Enfin, il y a des exceptions quand même. Hein, mais c'est pas forcément mon truc. Moi, j'ai besoin d'être d'être porté par une histoire ou un univers. Je suis pas obligée de jouer à un jeu d'aventure, hein, mais il faut que ça me raconte quelque chose. Du coup, bah, j'ai cherché et non, j'ai pas d'addiction similaire au vôtre, mais j'ai quand même une addiction. C'est Outer Wilds, parce que en fait, ce jeu me passionne et me fascine. Mais là où du coup, je fais le point commun entre vous et moi. C'est que en fait on est accro aux sensations qu'on a au jeu, tout simplement. Vous êtes accro à la dopamine. Bon bah voilà, c'est comme ça.
À la récompense permanente, à la recherche de la récompense d'après.
Voilà. Et moi je suis accro aux émotions et ce qui me rend accro à Outer Wilds, c'est que j'ai absolument envie de ressentir à nouveau ce que j'ai ressenti pendant ce jeu. Et la manière dont j'ai, enfin l'alternative que j'ai trouvée, parce qu'une fois qu'on a fait le jeu, bah on peut pas y rejouer. Hein. C'est vraiment ce jeu-là n'a aucune rejouabilité. Et bah du coup, je me tape des let's play de Outer Wilds. J'ai perdu le compte du nombre de let's play que j'ai regardé. Je sais pas, je dois en être à 8 ou 9, quelque chose comme ça. Et je me suis rendu compte qu'en regardant des let's play de gens qui jouent au jeu, j'arrive à retrouver un peu les sensations, justement, de la découverte, du moment où tu connectes les trucs et tu comprends et tu dis ah putain, mais oui, mais en fait c'est ça, et machin, et voilà, c'est incroyable.
Ah ouais, donc en fait c'est ça, t'as envie de retrouver la première fois où t'as, ouais. La première fois où t'as joué à jeu. Moi j'ai ça avec Life is Strange, le premier.
Okay.
Et parce que le jeu m'avait bouleversé, ouais. À l'époque, et le truc c'est exactement comme tu le dis, et il est encore plus narratif celui-là,
ouais.
Tu peux pas redécouvrir, tu peux pas désapprendre ce que tu as découvert, tu vois. Mais c'est vrai que voir des gens jouer à ce jeu et ressentir et être, enfin peut-être pas dans un état de choc, mais être aussi surpris, ouais. Aussi pris par le truc, c'est vrai que il y a un côté très cathartique où tu reprends les émotions que tu pensais ne plus ressentir. En tout cas, je sais que moi, si je relance le jeu, ben, je serai en mode mécanique parce que je sais ce que j'ai fait, tu vois.
Moi, j'ai un énorme problème, c'est que j'avais commencé à y jouer chez une copine. Et puis, bon après...
Outer Wilds ou Life is Strange ?
Life is Strange. Okay. Et en fait, je n'ai jamais fait le dernier chapitre. Et du coup, je suis tiraillée entre bah, il faut que je recommence tout depuis le début. Et le problème, c'est que je me rappelle encore de trucs, alors j'attends.
Alors,
j'attends et j'espère oublier un maximum de choses pour repartir de zéro et tout refaire.
Je fais une grande grimace parce que quand je me souviens de la fin du quatrième épisode, je fais c'est sale.
Bah ouais, mais tu vois, je suis vraiment en train de l'oublier, ouais. Et je fais vraiment l'effort mental de pas m'en, enfin de vraiment pas m'en souvenir parce qu'il va falloir que je refasse tout depuis le début.
Mais après, peut-être, je me dis aussi, c'est un jeu, des fois, qui correspond aussi à une époque où peut-être que maintenant, je trouve un gnangnan, tu vois, j'en sais rien, si je le découvrais maintenant, ouais. Tu vois ce que je veux dire. Donc,
bon, en tout cas, j'en avais un bon souvenir et...
Après, voilà, en gros, je pense, ça dépend à des... Je sais pas si c'est le cas d'Outer Wilds qui m'a l'air un peu moins générationnel,
bah,
entre guillemets.
Pour le coup, on parle pas de sujet de société comme, ouais. Comme dans Life is Strange. Donc,
ouais, voilà, ouais.
Mais je pense quand même que Life is Strange a bien vieilli, à mon avis. Hein. Oui. Je pense. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ?
Non, lui, il veut qu'on se barre du studio.
Ah oui.
Non,
je fais remarquer que.
Pardon.
Oui, non, mais c'est ça. Non, mais voilà. Lui, il est en train de nous faire remarquer que il a une machine à sous qui l'attend à la maison. Donc, il serait temps qu'on se casse. Merci, Bettina.
Eh ben, merci à vous deux.
Merci à toi, oui.
Merci Romain.
Merci toi, Xavier.
Eh ben, écoute, c'est bien. On se remercie tous. On se retrouve la semaine prochaine avec des invités.
Oui. C'est vrai.
Et on va parler de jeux vidéo.
Incroyable, ah bon, ça changera.
Et peut-être moins d'argent cette fois-ci. Ah, peut-être, on ne sait jamais.
On ne sait pas.
On verra. En tout cas, merci à vous. On se retrouve donc la semaine prochaine, toujours 21h sur Radio Canu et en replay sur Presse F5. Ciao.
Salut.
Bonsoir.